Bonjour Nisa.
Bonjour, bonjour et merci de m'avoir invité à votre émission.
Merci beaucoup d'être là également. Facile de s'imaginer qu'à cause de différents troubles de l'orientation, perte de mémoire, perte aussi de tout ce qui est lié à au temps, la notion du temps, de l'espace, les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer arrivent plus à se nourrir de façon satisfaisante, correctement. Et bien sûr, on peut penser aussi perte d'odorat, de goût. Et ça, je l'ai appris en lisant, en préparant l'émission, mais c'est facile de comprendre qu'il y a une perte d'appétit quand on n'a plus le goût. On perd même la mémoire de ce que peut goûter les aliments, les choses. Donc, ça a beaucoup de conséquences, la perte d'appétit chez les personnes atteintes d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a d'autres changements qui peuvent survenir quand on est atteint d'Alzheimer?
Absolument, merci pour la question. Donc, tout d'abord, si vous me permettez, j'aimerais bien commencer par dire un petit mot concernant la maladie Alzheimer comme telle. Donc, et pourquoi on l'appelle DTA, démence de type Alzheimer? Mm-hmm. C'est parce qu'elle fait partie d'un groupe de maladies apparentées qu'on appelle le groupe de maladies de troubles cognitifs ou de démence. Donc, dans ce groupe, on trouve d'autres maladies aussi, comme la maladie cérébrovasculaire, la démence mixte, la maladie de Parkinson, Huntington, etc. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées ne font pas partie du vieillissement, du processus du vieillissement normal.
Ouais, ouais. Mm-hmm.
Donc, près de 40% des personnes de plus de 65 ans éprouvent une certaine perte de mémoire, mais ça, ce n'est pas pathologique. Lorsqu'aucun état médical sous-jacent ne cause pas cette perte de mémoire, on lui donne le nom tout simplement de trouble de la mémoire lié à l'âge. Donc, ce n'est pas Alzheimer, donc n'ayez pas peur de ça. Un trouble de la mémoire commence à devenir problématique ou pathologique, si vous voulez, s'il affecte la vie de tous les jours. Donc, il est important de dire que la plupart des adultes âgés de 65 ans et plus ne développent pas l'Alzheimer. Certains auteurs, la démence de type Alzheimer représente environ la moitié des cas de démence. Certains auteurs disent qu'elle représente 64% des maladies neurodégénératives au Canada. Donc, pour retourner à votre question au niveau alimentaire, la démence de type Alzheimer est associée à des changements progressifs au niveau du comportement alimentaire. Et c'est un peu plus profond de ce que vous venez de dire. L'anorexie, par exemple, peut survenir dans les phases avancées de la maladie et contribuer à la perte de poids.
Pourquoi l'anorexie, elle surgit?
Tout à fait, parce que comme vous avez dit tout de suite, c'est au niveau du cerveau. Donc ça dépend. Nous avons une maladie, nous avons un titre général, la démence de type Alzheimer, mais ce n'est pas tous les patients qui ont la même sorte, si vous voulez, de maladie. Donc, ça dépend de la région atteinte. Mm-hmm. Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est vraiment cortical? Donc, ça dépend du lobe aussi. Est-ce que c'est occipital? Est-ce que c'est pariétal? Donc, ça dépend de ça, effectivement. Donc, il y a certains patients qui développent l'anorexie. Généralement, la perte de poids survient durant les premiers stades de la maladie et se poursuit tout le long de la progression. Les causes de la perte pondérale ou la perte de poids comme telle sont multiples. Je peux y en nommer. Troubles de comportement, tout simplement, comme vous avez mentionné, oublier de manger, difficulté à avaler ou ce qu'on appelle dans les hôpitaux, dans le jargon des hôpitaux, la dysphagie.
Mm-hmm.
Et puis certains auteurs parlent de l'augmentation des besoins énergétiques intrinsèques. Cette cause est peu probable d'après moi et elle est au moins controversée. Donc, oui?
Donc, tous ces changements-là ont bien sûr beaucoup d'effets sur la santé globale du patient.
Tout à fait, absolument.
Donc, parle souvent de dénutrition en ce qui a trait aux personnes atteintes d'Alzheimer.
La dénutrition, au niveau de la personne âgée, le vieillissement comme tel, c'est un facteur important.
Mm-hmm.
Même le vieillissement normal, disons, c'est un facteur important de la dénutrition. Mais donc, imaginez-vous, si jamais on a vieillissement et en plus de ça, nous avons démence de type Alzheimer ensemble. Donc, si vous voulez parler de la...
De la dénutrition, oui.
Oh, et, donc, comme j'ai dit, le vieillissement est déjà un facteur de risque pour le syndrome de la malnutrition. Selon Statistique Canada, par exemple, en 2013, 35% de la population canadienne âgée est à risque de la malnutrition. Et ici, on parle de la population gériatrique en général. Donc, la prévalence de la malnutrition à l'admission en milieu hospitalier, selon une étude faite en 2010, est de 12 à 72 %, et c'est beaucoup. En tant que nutritionniste, nous faisons face à cette réalité à tous les jours. La personne âgée est évidemment à risque très élevé d'être dénutrie. Elle a tendance à oublier, comme on vient de mentionner, à oublier de manger, à sauter des repas, à avoir de la difficulté à avaler, perte d'appétit, la polypharmacie aussi, c'est-à-dire la quantité est parfois énorme de médicaments qui sont pris
ouais.
en même temps. Donc tout
ouais.
ça, avec l'isolement social, etc., tout ça, ça fait augmenter beaucoup le risque de la malnutrition
Et
chez
il y a
les personnes
des effets,
âgées.
J'imagine. Est-ce que la personne qui vit avec l'Alzheimer, bon, bien sûr, elle prend des médicaments, est-ce que cette médication-là a un effet sur ce qu'elle mange ou vice-versa, si les aliments peuvent modifier la médication qu'elle prend?
Ben, pas vraiment. Les médicaments prescrits aujourd'hui contre les symptômes de la maladie d'Alzheimer, il faut dire ici que les médicaments ne sont pas les médicaments pour guérir. Il n'y a pas une guérison maintenant, il n'y a pas un traitement pour la maladie d'Alzheimer. Donc, ce sont des médicaments qui aident à atténuer un peu, à prolonger un peu la période des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc, les médicaments, généralement, sont les inhibiteurs qu'on appelle de la cholinestérase, qui est une enzyme au niveau du cerveau. Donc, c'est comme Donépezil, le nom commercial de ça, c'est Aricept. Nous avons la galantamine, la rivastigmine, ainsi que la mémantine. Donc, tous ces médicaments, ils ont des effets secondaires. Comme, par exemple, ça donne parfois de la diarrhée. Comme j'ai dit, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, ça fait la diarrhée, ça donne la diarrhée, ça donne la nausée, ça peut augmenter l'acide gastrique, donc des brûlures d'estomac, des RGO qu'on appelle des reflux, et des pertes de poids. Qui mène enfin à l'anorexie. Donc la polypharmacie, c'est-à-dire la médication, joue un rôle très important. Et ainsi, il faut consulter vraiment la pharmacie, le pharmacien et le médecin pour faire un suivi à ce niveau parce que c'est très important.
Nézard, vous travaillez à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Vous êtes nutritionniste, donc vous êtes là pour encadrer les gens qui y résident ou qui consultent et qui vivent avec des personnes plus âgées qui vivent avec différentes maladies.
Ouais.
En ce qui a trait aux gens qui sont de proches aidants, donc c'est-à-dire que la personne atteinte d'Alzheimer est encore à la maison et il y a un membre proche de sa famille qui est là pour superviser, pour donner les soins également. On fait comment pour modifier, pour adapter l'alimentation, c'est-à-dire pour éviter tous les problèmes qu'on a mentionnés, dénutrition, anorexie, perte d'appétit, c'est-à-dire que, bien sûr, j'imagine que c'est là, mais on fait comment pour combler ça, pour éviter les effets?
Ben, c'est une bonne question, merci. En effet, aidant naturel, c'est pas simple. C'est pas facile. C'est pas facile à vivre avec une personne touchée par cette maladie. J'aimerais ici peut-être attirer l'attention de nos chers auditeurs sur la présence d'un livre guide pertinent réalisé par l'équipe de la nutrition Mémoire dans le centre de recherche à l'IUGM, c'est-à-dire à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. On y trouve beaucoup de conseils vraiment très pratiques et des trucs simples pour vaincre la dénutrition chez la personne âgée atteinte d'Alzheimer.
Et c'est les proches aidants qui sont visés par cette publication-là.
Exactement. Oui. Donc, la clientèle cible, si vous voulez, de ce guide, de cet effort qui a été fait par le centre de recherche, c'est vraiment les aidants naturels. Donc, comme je peux citer ici quelques trucs, pour le refus, par exemple, de s'alimenter, si la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, refuse tout simplement de s'alimenter. Donc, il faut faire tout d'abord le bilan général de l'état de santé, comme chercher les douleurs, si jamais, et chercher à comprendre les signes que la personne donne. Ici, bien sûr, je parle de la personne atteinte de maladie d'Alzheimer, mais à stade avancé. Je ne parle pas de la première stade ou la stade légère. Du stade léger. Donc, voir l'état de la dentition aussi, c'est-à-dire la santé buccale, c'est très important. Voir des abcès, l'état de la gencive, parce que à un stade avancé, la personne arrête de s'exprimer comme il faut. Donc, il faut vraiment comprendre. Donc, c'est les dents naturelles qui comprend plus les signes donnés par la personne atteinte. Essayer aussi de retrouver les préférences alimentaires de la personne et pourquoi pas plonger dans le passé.
Faire plaisir aussi, il faut s'accorder le droit de faire plaisir, j'imagine, à la personne malade.
Ben, vous savez, dans un milieu hospitalier comme l'IUGM, par exemple, le plaisir de la personne reste un des buts, c'est-à-dire de nos interventions. Donc, il faut toujours, même maladie Alzheimer, même perte de mémoire, même perte de capacité à comprendre l'environnement, on est toujours, entre parenthèses, éthiquement parlant, obligé à respecter la volonté de la personne. Donc, je continue là. Pourquoi pas, au niveau des préférences alimentaires, plonger dans le passé, parce qu'on perd la mémoire à court terme. Donc, il faut chercher les préférences peut-être de l'enfance et tout ça. Voir aussi, comme j'ai dit tout de suite, la pharmacie pour diminuer ou bien substituer les médicaments qui coupent l'appétit. Essayer l'utilisation des épices, des condiments, parce que les goûts, comme vous avez mentionné au début de l'émission, les goûts changent avec l'âge et avec
La maladie
comme telle. Ouais. Donc, par exemple, il y a plusieurs trucs à respecter, à faire, à essayer, comme mariner toujours la viande, parfumer le lait d'essence de vanille, par exemple, prendre en considération que les personnes atteintes aiment plus le sucré, mettre de la sauce ou du bouillon comme tel sur les mets pour faciliter la déglutition, si jamais il y a un problème de déglutition ou de dysphagie, éviter la solitude, surtout isolement social, c'est très, très, très important, c'est-à-dire manger toujours avec la personne sur un milieu calme, serein, etc. Manger en dehors quand c'est possible, sortez, essayez de sortir avec la personne, parce que là, sortir, voir les gens autour de lui, ben, ça va peut-être augmenter l'appétit. Manger des petites quantités, mais plus souvent durant la journée. Donc tout ça, ça peut aider les personnes, les aidants naturels à domicile pour essayer de contourner ce problème, oui, si jamais.
Donc on peut favoriser les collations.
Tout à fait. Les collations riches, denses, je dirais. Au début là, de la maladie, c'est-à-dire le stade léger de la maladie, la perte pondérale, ça commence, ça peut commencer, mais ce n'est pas vraiment un danger imminent, mm-hmm, disons, pour la santé de la personne. Sauf que plus on avance, plus le risque est là, puisque la perte pondérale non volontaire,
ouais,
commence à apparaître. Donc là, le but, c'est vraiment de donner des aliments denses au niveau énergétique et protéique pour aller donner à la personne les besoins, pour combler les besoins, mm-hmm, via un volume diminué le plus possible, oui, des aliments.
Nizar, est-ce qu'il faut peser les personnes atteintes d'Alzheimer assez souvent?
Absolument. C'est une question très simple que vous posez, mais c'est très important quand même.
Ben, quand on parle de perte de poids, de dénutrition, d'anorexie, c'est sûr que c'est une question qui vient assez facilement.
Oui, donc... au niveau du poids, par exemple, c'est une question simple, comme j'ai dit, est importante. Donc, la perte pondérale comme telle, et ici, il faut toujours qu'on parle de la perte pondérale involontaire. Donc, est un signe évident de la dénutrition. Et là, attention aux chiffres. Je vais, oui, nommer quelques chiffres, là. Mmh. C'est pas à retenir, mais peut-être à prendre en conscience c'est ce processus. Donc, si la personne atteinte de démence de type Alzheimer perd 5% et plus de son poids habituel dans un mois, ou 7,5% et plus de son poids habituel dans 3 mois, ou 10% et plus de son poids habituel dans 6 mois, ça commence à être beaucoup, hein, les chiffres, ou 20% et plus dans une année, on est devant une dénutrition modérée à sévère. Donc, il faut vraiment suivre le poids. Moi, je suggère fortement, je conseille de peser aux 2 semaines et puis garder un registre pour voir la courbe pondérale, comment ça avance, puis réagir en fonction de ça.
Est-ce qu'on propose des suppléments alimentaires pour contrer la dénutrition?
Comme tel, si on arrive à contourner, à surmonter toutes les difficultés qui sont liées à l'alimentation comme tel, non, la réponse est non. Si jamais l'alimentation est équilibrée, si jamais les assiettes sont bien garnies, puis si jamais l'appétit est toujours là, puis la personne accepte de manger, la réponse est non. Mais une fois les signes de dénutrition commencent à apparaître, donc là, à ce moment-là, tout est permis pour vaincre la dénutrition, y compris l'enrichissement des aliments et l'utilisation des suppléments, bien sûr. Et puis là, sur le marché, si c'est difficile de faire, bah, c'est possible de faire des suppléments à la maison, même entre parenthèses, comme les milkshakes enrichis, faire une diète comme ça, facile à prendre, mm-hmm, à domicile, faite maison. Même si c'est ça difficile, c'est de faire ça à la maison, c'est-à-dire via des recettes maison, il y a une grande panoplie sur le marché de suppléments riches, vraiment denses au niveau énergétique et protéique.
Et Nizar, je reviens aux aidants naturels qui peut-être nous écoutent à la maison. On fait quoi quand la personne malade, atteinte de la maladie d'Alzheimer, refuse de s'alimenter afin de s'assurer qu'il y ait quand même une prise alimentaire là, quotidienne?
Bah, comme j'ai mentionné tout de suite, il y a plusieurs trucs à faire. Comme j'ai dit, là, je pense qu'on a passé à travers un peu rapidement, mm-hmm, via le petit livre guide,
oui,
que j'ai parlé.
Le plaisir, en tout cas, moi, je retiens ça beaucoup.
Pour le plaisir, effectivement.
Oui.
Donc, c'est toujours chercher des petits trucs qui peuvent aider à ça. Comme par exemple, peut-être afficher sur le frigo les heures des repas.
Ah oui, c'est une bonne idée, ça.
Mettre des flèches dans la maison qui disent, ben, c'est ici telle ou telle chose, donc c'est où là? La farine, c'est où le supplément, justement, dans le frigo. Donc, aider tout ça, se mettre dans la peau de la personne atteinte. Ben, imaginez-vous que vous perdez un peu de mémoire. Donc, c'est quoi les choses qu'il faut, qui peuvent vous aider?
Ouais.
Donc, essayez de faire ça. Comme par exemple, je peux parler aussi de, pour l'oubli de s'alimenter ou de s'hydrater, peut-être laisser les aliments préférés à portée de main et à la vue de la personne, toujours. Mmh. Rappeler de manger avant chaque repas habituel. Installer des affiches, comme je viens de dire, à divers endroits et ne pas oublier, c'est-à-dire pour ne pas oublier de manger, mettre des images aussi et des dessins qui peuvent aider. Donc, offrir souvent, ça aussi, ça, c'est très important au niveau de l'hydratation comme telle, parce que l'hydratation, on peut parfois donner, combler les besoins au niveau calories et énergie, mais au niveau hydrique,
ouais,
ça,
ouais.
c'est difficile, surtout qu'il y a des personnes âgées, même oubliant la démence de type Alzheimer, donc il y a des personnes âgées qui évitent de boire pour ne pas aller tout simplement à la toilette.
Ouais.
Donc, ça, c'est très, très répandu. Donc, il faut offrir souvent de l'eau, des liquides à la personne atteinte pour assurer une bonne hydratation, parce que la question d'hydratation, ce n'est pas simple. La question d'hydratation peut être jumelée à une augmentation de risque de chute aussi, à fracture de hanche, au délirium qu'on appelle. Donc, ce n'est pas si simple que ça et ça peut être très, très grave.
Et bien sûr, si la personne est toujours résidente de sa maison, finalement, si on est un aidant naturel, on s'assure que le frigo est plein. On fait les courses parce qu'il y a aussi, bien sûr, tout ce danger-là là, d'oublier de faire les emplettes ou d'oublier qu'il y a des aliments dans le frigo. Donc, j'imagine qu'il faut, bien sûr, gérer tout ça. Nizar, vous nous rappelez en terminant le titre du guide que vous avez mentionné tout à l'heure. Vous ne l'avez pas sous les yeux, hein,
je ne l'ai
pense.
Pas sous les yeux, mais c'est un guide fait à l'IUGM. Tout simplement, aller dans le site de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, puis le centre de recherche. Puis là, vous allez voir, je pense que ça s'appelle un guide pratique pour les aidants naturels, justement, les aidants des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc, je pense que c'est ça le titre.
www.iugm.qc.ca. Nizar Hamoud, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et de vous parler aujourd'hui.
Merci beaucoup, chère madame.